Co-table.
Pour être rationnel, il faut être radical.
Je dis toujours que manger est politique.
Pour que l'aspect santé est primordial.
Il faut prendre le sujet à la racine.
Et là, une fois encore, le changement climatique, il amène un curseur différent.
Faire une révolution écologique.
Et la racine, c'est pas uniquement nous en tant que consommateurs, le porte-monnaie, etc.
C'est les versants que j'ai découverts, c'est la cuisine très engagée, c'est des personnalités fortes.
Et c'est la combinaison des deux qui fait que le produit va être bon.
En fait, à la campagne, on n'a pas besoin de suivre un schéma sur Instagram.
Sur le grill, décotable.
Je suis Fanny Gianceto. Dans ce podcast, je décrypte les enjeux environnementaux, sanitaires et sociaux de notre alimentation. J'interroge également des personnalités publiques sur leur relation à l'alimentation et aux enjeux environnementaux. Que l'on soit expert, scientifique ou politique, artiste, même simple citoyen, l'alimentation est l'une des clés du changement. Vous nous suivez ? Et pour découvrir tout ce que l'on fait chez Écotable, n'hésitez pas à consulter notre site écotable.fr. Vous y trouverez des restaurants labellisés dans lesquels manger, mais aussi des outils d'accompagnement pour les restaurateurs afin d'accélérer la transition écologique. Bonne écoute ! Dans cet épisode, nous allons décrypter une thématique un peu différente de d'habitude, mais ô combien importante, le handicap. Comment faire pour changer de regard sur cette situation qui touche une personne sur sept de 15 ans ou plus en 2021 en France, d'après le ministère de la Santé et de la Prévention ? L'insertion professionnelle des personnes handicapées dans le secteur de la restauration, par exemple, est-elle une clé ? Moquerie, invisibilisation, chômage, les personnes en situation de handicap font face à une réalité bien plus dure que ce que nous pouvons imaginer. Elles sont bien souvent sous-représentées dans de nombreux domaines, comme la restauration. Le manque de sensibilisation et de prise en charge sont des enjeux majeurs sur lesquels il est important de se pencher. Mais certaines associations et entreprises agissent quotidiennement pour changer de regard sur ces personnes en situation de handicap. Elles essayent de faciliter leur insertion dans la société, notamment dans le milieu professionnel. C'est le cas des restaurants Le Reflet à Nantes et à Paris, fondés par Flore Lelièvre en 2016 et 2019. Flore est aussi à l'initiative de l'association Les Extraordinaires, qui a pour objectif de porter des projets d'innovation sociale dans le champ de la restauration, des métiers de bouche et de l'alimentation. Je la reçois aujourd'hui. Elle est accompagnée de Sarah Kaladjian, chef cuisinière dans le restaurant parisien Le Reflet. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Est-ce que déjà vous pouvez vous présenter un peu plus en détail, Sarah ?
En détail, c'est-à-dire ?
Qui es-tu ? Quel est ton parcours ?
C'est une reconversion. La cuisine est une reconversion. Après quelques années, de longues années de journalisme, je suis retournée à l'école parce que la cuisine, c'est une passion. Une école où j'ai passé un CAP. Après, j'ai enchaîné sur diverses expériences dans la restauration, plusieurs établissements, avant d'arriver au Reflet. Donc en fait, tout ce parcours-là a été construit, il me semble, de sorte à ce que j'arrive vraiment à un poste qui me convient.
Et toi, Flore ?
Moi, je suis pas du tout issue de la restauration. Je suis architecte d'intérieur, de formation et de métier. Et le projet du Reflet a été mon projet de fin d'année de diplôme. J'avais choisi comme sujet comment peut-on créer un lieu et des outils qui s'adaptent à des personnes comme mon grand frère Cédric, qui a une trisomie 21, pour qu'il puisse travailler comme tout le monde. Donc, créer un lieu qui soit créateur d'emplois et de rencontres pour faire changer le regard qu'on porte sur la différence.
Donc, c'est grâce à tes études d'architecte intérieur que tu es venue à la restauration ?
Tout à fait.
Ok.
C'est parce que j'aime bien manger aussi.
Accessoirement. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est la particularité du restaurant Le Reflet pour ceux qui ne le connaissent pas ?
Alors, Le Reflet, c'est un restaurant pas tout à fait comme les autres, puisque la majorité de notre équipe est composée de personnes porteuses d'une trisomie 21, qui travaillent aussi bien en cuisine qu'en service, dans un environnement qui a été pensé pour s'adapter au maximum à eux, à leur talent, pour qu'ils puissent s'épanouir, monter en compétences et s'intégrer dans notre restaurant, mais aussi plus largement dans la société.
Donc, on l'a compris, ton frère est porteur de trisomie 21. Est-ce que c'est vraiment ça qui t'a poussé à faire ce restaurant, parce que tu constatais que justement, pour lui, c'était difficile d'avoir tout simplement de pouvoir travailler ?
Ah bah oui, complètement. Si j'avais pas eu de frère en situation de handicap, je pense que c'est une question qu'on se pose pas. Quand on côtoie pas de personnes, on dit différentes. Et toute ma vie, je me suis rendu compte à quel point tout était plus compliqué en fait pour lui. Et je me suis rendu compte aussi à quel point il y avait de la méconnaissance chez les gens. Et donc quand on connaît pas de personnes en situation de handicap, on sait pas comment forcément se comporter, comment réagir. Et je pouvais constater que dès que la rencontre se faisait avec mon frère ou avec ses copains, en fait, ben, ça marche, quoi. Mais il suffit juste de donner l'opportunité aux personnes de se rencontrer.
Qu'est-ce que tu as transformé dans ce restaurant? Comment tu l'as conçu pour que ces personnes porteuses de trisomie 21 puissent y travailler?
L'idée, c'était déjà d'adapter le fonctionnement du restaurant parce que il peut y avoir une fatigabilité plus importante chez nos serveurs et chez nos cuisiniers. Donc, on a adapté les rythmes. Le restaurant, donc c'est des contrats de travail, c'est des CDI que tous nos collaborateurs signent, mais c'est des temps partiels. C'est en moyenne 25 heures par semaine. Quand ils travaillent le midi, ils ne viennent pas travailler le soir. Il n'y a pas de coupure. On ferme aussi 8 semaines dans l'année, une semaine à chaque vacances scolaires, 4 l'été. Pour respecter les rythmes de nos collaborateurs, mais finalement, c'est indispensable pour tout le monde et bénéfique pour tout le monde. Donc, il y a ça. Il y a également plein de petits outils ou astuces qu'on a pu mettre en place dans le restaurant. Il y a un système de prise de commande qui est adapté, par exemple, où c'est le client qui tamponne ses choix sur une feuille. Donc, ça permet au serveur de prendre la commande en autonomie et puis d'avoir une bonne transmission des infos en cuisine, même s'il y a des difficultés de lecture, d'écriture ou de mémorisation. On a aussi des assiettes ergonomiques, parce que l'appréhension des personnes qui ont une trisomie 21 n'est pas la même que tout le monde. Donc, j'avais dessiné des assiettes sous lesquelles l'empreinte des mains était ancrée, leur donnant du relief pour permettre une meilleure prise en main et leur apporter de l'assurance et de la stabilité. Bon, aujourd'hui, clairement, ils en ont plus du tout besoin et ils s'en sortent très bien avec toute la vaisselle qu'on peut proposer. On bosse aussi beaucoup avec des supports visuels, des pictogrammes pour les guider. L'idée étant qu'ils puissent évoluer dans leur journée de travail au maximum en autonomie sans avoir tout le temps à solliciter l'aide d'un manager. Et puis, y a aussi la carte qui est adaptée parce que l'idée, Sarah va en parler, mais l'idée, c'est d'éviter au maximum le coup de feu et les moments de stress. Alors, clairement, on est dans le pire secteur d'activité pour ça, je pense. Mais du coup, Sarah pense aussi aux recettes en fonction de notre établissement.
Oui, on va en parler. Sarah, toi, tu t'es formée en cuisine, tu l'as dit, c'est une reconversion. Tu as travaillé notamment à l'hôtel, si je ne me trompe pas, le Mandarin Oriental. Tu as travaillé à la maison du Saké, puis dans des restaurants bistronomiques comme la Terrasse du 5e et Monsieur Poirot. Qu'est-ce qui t'a donné envie de rejoindre le Reflet?
Parce que ça manquait de sens, en fait. Faire cuisiner pour des gens qu'on ne voit pas, je ne voyais pas trop l'intérêt. Ça m'a beaucoup servi parce que j'ai beaucoup appris. Et une fois que la base était installée, ça m'a permis d'aller chercher une dimension supplémentaire. C'est-à-dire de ne pas faire que de la restauration, mais aller chercher quelque chose en plus. En tout cas, ce pourquoi je pourrais éventuellement servir. Ça, je ne savais pas. J'en savais rien. Donc voilà. Et puis, j'ai découvert... en fait, je ne connaissais pas les Reflets.
Okay.
Le Reflet m'a appelé. Et j'ai découvert ce milieu-là et ça correspondait exactement à ce que je voulais en fait.
Et comment, je ne sais pas si c'est toi Flore, mais comment vous avez connu Sarah du coup si c'est vous qui l'avez appelée?
Alors il y a un truc formidable avec le Reflet, c'est que on sait jamais quand, mais il y a toujours un moment où les planètes s'alignent et qu'on fait les bonnes rencontres. Donc en fait c'est le réseau qui fait on croise des personnes comme Sarah sur notre chemin qui deviennent indispensables après au projet.
Et toi, Sarah, tu avais déjà travaillé avec des personnes en situation de handicap ou pas?
Jamais.
Du tout?
Ok. Non, ça a pas été... En fait, quand je suis arrivée, ça n'a pas du tout été un frein. Ni une interrogation, ni rien, en fait. J'étais juste bouche bée, quoi. Je trouvais ça génial. J'aime bien les projets un peu fous comme ça, parce que c'est fou, mais c'est très très riche.
Génial. On va parler de tout ce que le restaurant a mis en place, mais avant, je voudrais faire le lien entre handicap et alimentation. Flore, pourquoi un restaurant et pas autre chose? Est-ce que l'alimentation, ça peut particulièrement aider, l'alimentation et la restauration, à avancer sur ces sujets-là?
En fait, au sein d'un restaurant, on peut aborder plein de sujets. Donc évidemment... le lien social, évidemment l'inclusion, mais évidemment on peut sensibiliser à plein de choses. C'est un super outil, je pense. Je suis passée par plusieurs domaines d'activité avant de me dire ok, ce sera la restauration. Aussi parce que peu d'exemples d'intégration, d'inclusion réussie dont j'avais connaissance, la restauration ça ressortait pas mal. Le service, parce que nos collaborateurs ils ont un sens du service qui est juste exceptionnel parce qu'il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de filtre, il y a beaucoup de spontanéité et d'attention. Et du coup, bah forcément, quand on fait un métier de service, c'est super, ça marche bien. Et puis, c'est aussi un domaine qui nous permettait de proposer un job complètement différent du service, qui est celui de la cuisine. Et donc, bah, de s'ouvrir à plus de profils, le plus de profils possible. Et ce qui est top, effectivement, c'est que quand on vient manger au Reflet, il y a une sensibilisation à tout point de vue. Donc, on ne pouvait pas juste se dire « Ok, on fait un resto, on embauche des personnes en situation de handicap et voilà. » En fait, ce n'est pas ça le projet. Le projet, c'est de créer la rencontre autour d'un bon repas avec des bons produits, qui a une cohérence globale, en fait, et du projet de base jusque dans l'assiette. Mmh.
Et pour toi, c'était important que de mettre le doigt sur un handicap, enfin un handicap, la trisomie 21, ou au contraire, tu aurais pu travailler avec toutes sortes de handicaps?
Alors, on s'est posé la question, évidemment, hein, quand on a créé le Reflet. J'avais vraiment envie de créer un environnement qui s'adapte aux collaborateurs qu'elle aille y travailler. Et forcément, quand on cible un handicap, même si tous nos collaborateurs sont différents, il y a quand même des caractéristiques communes. Et du coup, ça me semblait plus facile d'adapter le lieu, ses outils et son fonctionnement en restant concentré sur la trisomie 21. Mais ça n'empêche que le Reflet ne sert pas à faire changer le regard uniquement sur ce type de handicap, c'est beaucoup plus global. Et nous, on le fait de cette manière-là. Il y a d'autres restaurants qui ont ouvert ensuite en travaillant avec d'autres types de handicap, certains en mixant. Voilà, il y a plein de manières de faire. Nous, ça a été un parti pris, mais je pense que ça contribue au changement global de regard sur le handicap, quel qu'il soit.
Est-ce que vos clients viennent en sachant qu'ils vont être servis, que la cuisine va être faite par des notamment par des personnes porteuses de trisomie 21 ou pas du tout?
Je dirais plus maintenant. Hein? Ouais. Autant avant, au début, c'était sûrement le cas. Moi, j'y étais pas. Mais plus maintenant. Ils viennent parce que...
Parce que c'est bon.
Oui, parce qu'on est bien noté. Et donc, ils découvrent en arrivant, effectivement.
Et alors, quelle est leur réaction, du coup? Vous devez le voir, vous?
Ils sont ravis. Mmh. Ils sont ravis. Ils sont ravis parce qu'ils découvrent quelque chose. Ils ne s'attendaient pas du tout à ça. Et ça leur permet de s'ouvrir. Ouais, en tout cas, d'avoir un autre regard. Hein. Mmh. C'est ça le but. Et en tout cas, agréablement surpris. Ouais.
Sarah, pour toi, quel est le rôle de l'alimentation et de la cuisine dans l'insertion et le bien-être de ces personnes handicapées?
Je sais pas, moi, la cuisine, je trouve que ça fait partie de l'ordre du don. Donc, c'est un truc, c'est quelque chose qu'on partage. Et ça permet d'apprendre plein de choses. La cuisine, c'est génial, c'est tout plein de produits, c'est le goût, c'est travailler les produits pour un résultat. Donc c'est une gamme énorme d'apprentissage, en fait, du début à la fin jusqu'à dans l'assiette et ensuite au service.
Il y a des études en préparant ce podcast qui montrent aussi que les personnes en situation de handicap, elles sont souvent plus touchées par des problèmes de nutrition, surpoids, obésité, dénutrition. Est-ce que ça vous parle, ces études? Est-ce que vous les comprenez, Flore, notamment?
Alors, je connais pas tous les handicaps, mais je sais que la trisomie 21, effectivement, ça peut dérégler, enfin, ça peut jouer sur plein de choses. Et pour connaître quand même pas mal de personnes qui sont touchées par ce handicap, il peut y avoir effectivement plus de surpoids, de problèmes de surpoids. Alors, je sais qu'il y a, j'ai pas creusé vraiment le sujet médical, mais je sais qu'il y a souvent des problèmes de thyroïde. Donc, voilà, les dérèglements hormonaux. Donc, c'est aussi chouette de pouvoir sensibiliser nos équipes au bien manger.
Ouais, bien sûr. Concrètement, comment vous vous y êtes pris pour créer ce restaurant? Donc, toi, Flore, qu'est-ce que tu as fait? Ça a été quoi les étapes charnières et les difficultés que tu as rencontrées?
On va dire que dès qu'on fait un projet qui est hors case, il faut créer toutes les cases. Ouais. Donc, il y a pas mal d'étapes. Après... quand on monte un projet comme ça, le truc le plus important, c'est de bien s'entourer parce qu'on peut pas le faire tout seul, loin de là. Donc, moi, j'ai eu la chance de croiser plein de belles personnes au bon moment qu'on rejoint l'équipe. On a créé donc l'association Les Extraordinaires avec laquelle on a créé le premier resto, puis le deuxième. Et le fait d'avoir une équipe pluridisciplinaire, hyper convaincue, en fait, par le projet, ça aide parce que comme je le disais, à chaque étape, il y a des freins. Et du coup, faut trouver l'énergie, les ressources et les compétences pour lever à chaque fois ses freins. Et donc, le fait d'être une équipe, ça aide beaucoup. Mais il y a des freins à tout niveau, administratif. Mais ça, j'ai envie de dire, c'est pas que dans le domaine du handicap. Hein.
Ouais.
Voilà, il y a eu quand même plein de sujets. Il y en a encore aujourd'hui, hein, d'ailleurs. Mais
est-ce que ça veut dire qu'on ne pousse pas les gens à faire des projets, notamment dans ce domaine du handicap, parce qu'en fait, c'est compliqué?
En tout cas, on leur facilite pas forcément la tâche.
Ouais.
Ça, c'est une certitude.
Pourquoi?
Beaucoup de méconnaissances, je pense. Quand on a ouvert il y a 7 ans le Reflet à Nantes, on se remet 7 ans en arrière, les restos inclusifs, ça n'existait pas en France en 2016.
Mais il y avait quand même déjà une politique d'incitation à l'embauche de personnes handicapées.
Ouais, mais le handicap mental... pas trop, hein. Okay. Donc, parce qu'on parle du chômage des personnes en situation de handicap, mais quand on regarde le chômage des personnes en situation de handicap mental, c'est encore un autre sujet. Et on m'a dit au début, mais en fait, si ça n'existe pas, c'est que il y en a certainement qui se sont posé la question et c'est que ça doit pas exister. En fait, ça peut pas marcher, votre truc. Alors, fort heureusement, c'était pas la majorité des retours que j'avais. La grande majorité, c'était, quand j'ai présenté mon projet de diplôme, c'était, mais pourquoi ça n'existe pas? Il faut y aller, il faut le faire. Et il y en a eu effectivement quelques-uns qui ont trouvé le projet utopique, que ça, c'était un peu fou, trop fou. Mais en fait, je pense que ça donne une énergie supplémentaire. Et tu penses qu'on peut pas y arriver, tu vas voir. Et en fait, le jour où on a ouvert, la plupart sont revenus sur leur position en disant, en fait, c'est top. Il pouvait peut-être y avoir une certaine appréhension, notamment du secteur du milieu protégé. Un peu le seul endroit où peuvent travailler les personnes en situation de handicap, hein, sauf pour certains, mais c'est pas une majorité, où ils se disaient, un resto, une entreprise, qu'est-ce qu'il y a derrière? Et en fait, quand on a ouvert et qu'ils ont vu, je pense qu'on était dans un environnement qui était bienveillant, qui était vraiment créé pour proposer les meilleures conditions possibles pour que nos collaborateurs s'épanouissent, développent leurs compétences, et puis trouvent leur place dans la société. Et quand tout simplement ils voyaient comment nos serveurs étaient heureux quand ils accueillaient les clients, c'est bon, ça y est, le pari il est fait. Et en plus, en mangeant et en sortant, les premiers retours c'était quand même assez exceptionnel à Nantes comme à Paris. C'était les premiers jours exactement les mêmes réactions, c'est-à-dire que les premiers clients qui viennent savent où ils mettent les pieds parce qu'on a parlé du projet avant qu'il ouvre. Et en fait, en sortant, ils nous disent « Ah, mais en plus, c'est bon. » C'est-à-dire que c'était même pas rentré dans leurs paramètres. Et c'est ça qui fait que ça marche et que ça fait changer le regard. C'est qu'on est hyper exigeant sur la qualité de ce qu'on sort en termes de prestations, que ce soit le service ou la cuisine, parce qu'on reste un restaurant et qu'on a, je pense, une mission encore plus importante parce qu'on a encore plus de choses à prouver. Et c'est hyper important, du coup, que ce soit hyper quali.
Tu as commencé du coup à ouvrir le restaurant à Nantes, puis ensuite à Paris. C'était important pour toi que justement ça se délocalise, le concept?
Alors à la base, il ne devait pas y avoir de resto, hein. C'était juste un diplôme de fin d'études. On a ouvert, on a vu à quel point ça apportait plein de choses hyper positives, que ce soit pour nos collaborateurs en situation de handicap, leur famille qui était aussi rassurée de voir qu'il y avait un avenir professionnel en milieu ordinaire possible. Évidemment aussi pour les managers qui travaillent avec eux au quotidien, qui trouvent un autre sens à leur métier. Les clients, le retour des clients, on a créé la rencontre, on l'attend pas forcément et c'était ça qu'il fallait. Et en fait, on est prêt, hein, tout le monde est prêt à ça. Donc ça, c'était hyper positif. Et on a eu aussi un autre, on s'y attendait, enfin moi, je m'y attendais pas du tout. Très vite, on a eu des clients qui sont venus, mais de partout, des quatre coins de la France, voire même de l'étranger, pour voir comment ça fonctionnait le Reflet, pour s'en inspirer, pour qu'on leur partage notre expérience, pour qu'eux, à leur tour, ouvrent leur propre établissement. Et ça, on est contacté encore aujourd'hui, 7 ans après, une à deux fois par semaine par des porteurs de projets. C'est énorme.
Incroyable.
C'est un truc de dingue. Et donc, très vite, on s'est dit, notre rôle, il va peut-être être là, en fait, de mettre en lumière justement nos bonnes pratiques pour donner envie à d'autres de le faire. Donc on a écrit un livre qui s'appelle Restaurant Extraordinaire qui raconte toute notre aventure et qui donne des billes aux porteurs de projets pour que, alors on détient pas du tout la vérité, mais si on peut leur faire gagner un peu de temps
bien
sur
sûr
certains sujets, c'est cool. Et on s'est dit l'objectif c'était pas du tout d'en ouvrir plusieurs, mais on s'est dit on a quand même un sacré impact social et ce serait quand même chouette de l'emmener un peu plus loin. Donc on s'est dit on va en faire un deuxième, deux pas plus. Mais on va, pour frapper fort en termes d'impact social, quoi de mieux que de venir à Paris et de pouvoir rayonner et porter notre message d'inclusion au plus grand nombre.
Et dans le centre de Paris, on est ici au Reflet, dans le 3e arrondissement. Sarah, toi, comment tu t'es adaptée à tes nouveaux collègues? Est-ce que tu as dû changer ta façon de procéder, de communiquer, de travailler de façon générale?
C'était plus compliqué de travailler avec des gens ordinaires qu'avec des gens extraordinaires, en fait. Il n'y a aucune difficulté. Non, il faut une sensibilité, il faut quand même ça. De la bienveillance, ça, on en a parlé, oui. Il n'y a pas de... Ils sont tellement en demande d'apprendre et de bien faire que c'est gagné, quoi, à la base.
Mais tu as dû quand même adapter les menus, c'est ce que disait Flore tout à l'heure. Quoi ce travail que tu fais autour des menus?
En fait, ce n'est pas une adaptation des menus, c'est... Enfin, je mets ça entre guillemets parce que c'est une évidence. C'est pas une adaptation, c'est un accompagnement. En fait, le menu est construit avec et pour eux. Après, pour évidemment pour les clients, mais faut qu'ils puissent s'inscrire sur le menu. Sinon, ça n'a pas de sens. Donc, par exemple, pour travailler la découpe, on va prendre certains produits. Là, cette semaine, on a des racines de persil. Ça va leur permettre de travailler. Maintenant, ils savent le faire, hein. Mais la découpe en particulier de légumes, de viande, de fruits, etc. Et de découvrir par là même tous ces produits-là.
Ok, parce que c'est déjà ce qui vont être plus compliqués à faire pour eux.
Je monte en gamme, en fait, à chaque fois.
Ok.
Au début, par exemple, ça peut être des pommes de terre. Donc, éplucher des pommes de terre, couper des petites pommes de terre, etc. Donc, on travaille la découpe. Mais la semaine d'après, je prends un autre produit, un petit peu plus compliqué. Pour non seulement asseoir le premier apprentissage sur la découpe et sur les épluchages, ça se dit
épluchure
c'est plus
non oui épluchage
ouais. Ouais. Et ensuite le travail de découpe, le travail d'assemblage, etc. Donc ça monte en gamme à chaque fois.
Et en termes de management, est-ce que ça change quelque chose concrètement de manager des personnes qui sont en situation de handicap?
Il faut être à l'écoute.
Ouais.
Il faut s'adapter, bien connaître ses collaborateurs. Mais en fait, il faut être. Alors, tu parlais de bienveillance, mais il faut être aussi exigeant parce qu'on reste dans le domaine professionnel. Mais en fait, j'ai envie de dire, c'est des qualités managériales qu'il faut avoir dans avec n'importe quelle équipe. Ouais. Mais c'est ça qui est chouette, c'est qu'en plus dans un domaine comme la restauration, qui peut être dur. Voilà, historiquement, culturellement, c'est pas le domaine le plus simple. Ça permet de reposer les choses et les fondamentaux, en fait. Et du coup, ça crée un climat. Mais c'est comme toutes les adaptations qu'on peut faire. Finalement, elles sont bénéfiques à tout le monde.
Oui, au final, le climat du restaurant Le Reflet est, je vais utiliser ce mot, je sais pas si c'est le bon, mais apaisé par rapport à un autre restaurant. Tu dirais ça, Sarah?
Ouais, je comprends. Oui, je dirais ça. C'est aussi, c'est évidemment, il faut que ce le soit. On pourrait pas travailler si le climat était tendu, etc. Comme dans d'autres restaurants, il faut que la base soit posée, le cadre bien dessiné, pour qu'ils puissent progresser et performer, et aussi s'épanouir, parce que c'est le but.
Et j'imagine que contrairement aux autres restaurants qui subissent souvent un turnover assez fort, ici, forcément, il est beaucoup plus faible ou pas forcément?
Sarah, toi, t'es là depuis le début.
Ouais.
Nos serveurs, ils sont quasiment tous là depuis le début. Ils sont tous là depuis le début,
ouais.
En fait.
Tous.
Il n'y a pas eu d'arrivée. On a eu deux départs. On a un collaborateur qui était au tout début en formation avec nous et qui est parti travailler chez Yannick Aleno.
Ok.
Et on a une autre collaboratrice qui est partie et qui a quitté le domaine de la restauration. Sinon, les autres sont encore là 4 ans après.
Est-ce que justement pour vos processus de recrutement, vous avez mis en place des choses particulières?
Alors, au tout début, quand on a ouvert le premier restaurant, on a pris les 7 premières personnes qui se présentaient à nous sans critères de formation, d'expérience, parce qu'on savait que de toute façon, la formation, c'est hyper compliqué d'y avoir accès quand on est en situation de handicap.
Donc, c'est vous qui les formez.
C'est nous qui les formons. Après, on a un peu revu, Quand on a ouvert à Paris, on a un petit peu revu justement le recrutement en se disant, OK, on va, déjà, on voulait pas lancer un appel à candidature parce que se retrouver avec 50 candidatures et devoir choisir, moi, j'aurais été incapable. Du coup, il aurait fallu ouvrir beaucoup trop de restaurants. Donc, on s'est dit, on prend les premiers. Mais par contre, on met quand même un critère de, il faut qu'il y ait, que ce soit une envie, une vraie envie de la personne et pas un souhait des proches. Du coup, que ce soit une envie qui a été testée au moins par un stage et encore mieux s'il y a une formation. Et il se trouve que, pour le coup, à Paris, on travaillait beaucoup avec l'école Médéric, le CFA Médéric, qui a une classe qui s'appelle la Passerelle, qui forme des élèves en situation de handicap à la pâtisserie, à la cuisine et au service. Donc, on a pas mal de collaborateurs qui viennent de chez eux. On avait aussi deux personnes qui venaient de l'EPMT. Donc, il y avait pour la plupart, il y avait quand même déjà un an de formation, donc des bases. Et surtout, une vraie envie professionnelle. Et puis, à partir de là, on les a pris en stage pendant un mois. Et puis derrière, on a signé leur contrat. Donc, le recrutement, en fait, on ne peut pas se baser sur un entretien d'embauche classique. Ce n'est pas possible. Mais bon, j'ai envie de dire comme pour tout le monde, en fait. Donc là, le peu de fois où une place se libère, parce que le turnover, effectivement, est très faible. À Nantes, là, récemment, on a eu des recrutements à faire. Ça va être par le réseau ou par des stagiaires, des gens qui sont venus en stage chez nous pour découvrir le métier. Et puis, on commence par une période de CDD de 4 à 6 mois et ensuite, on fait signer un CDI. Mais voilà, on prend le temps pour être sûr que la personne se sente bien dans le poste, que le reflet, ce soit quelque chose qui leur convienne. Mais sinon, on met pas de... Il n'y a pas de process particulier.
Est-ce que tu as pu embaucher ton frère ?
Ah non, il m'a dit direct, mais j'ai pas du tout envie de travailler dans un restaurant. Qu'est-ce que tu es en train de faire ?
J'adore.
Ah non, direct. Dès que je travaillais, parce que quand je préparais mon diplôme, je rentrais chez mes parents tous les week-ends pour bosser sur mon diplôme et notamment pour la création des assiettes sur mesure.
Ouais.
Je le faisais tester les assiettes et en fait, au bout d'un moment, il a été voir ma mère. Il dit, mais maman, j'ose pas lui dire, mais je suis pas du tout envie de travailler dans un restaurant, moi. Par contre, il vient manger, ça. Il n'y a pas de souci, mais.
Est-ce que, dans vos clients, il y a plus de personnes handicapées qui osent franchir le pas ? Parce que il y avait deux questions que je me posais. C'est sur le regard que porte la société. Déjà, on porte le regard souvent sur les personnes en situation de handicap, mais assez peu sur les... Je ne sais pas si on les appelle les aidants, mais en tout cas leurs proches, comme toi. Et aussi, je me disais que ces personnes en situation de handicap, on ne les voit pas dans les restaurants souvent. Ce n'est pas seulement qu'on ne les voit pas en tant que chef ou en tant que serveur. C'est qu'en plus, on ne les voit pas en tant que client. Ou peu.
C'est sûr que c'est un environnement qui est un peu plus propice.
Ouais.
Et effectivement, ça, je l'avais pas mesuré, mais on a eu des groupes dès l'ouverture, des groupes de foyers de vie. Et effectivement, on nous a déjà fait la remarque. On se pose pas de questions en venant chez vous. On sait qu'on est reçu, que vous allez vous adapter aussi à la clientèle. Évidemment, nos lieux sont accessibles à PMR. Et même aussi, ça nous est arrivé d'avoir des familles qui venaient d'apprendre le handicap de leur enfant et qui venaient, et c'était hyper touchant parce que c'est les parents qui disent on voit qu'il y a un avenir qui est possible. Et du coup, de montrer qu'il y a un espoir, qu'il y a. C'est chouette.
C'est des personnes extraordinaires. Toutes les deux, quel regard vous portez sur l'accessibilité de façon générale au travail des handicapés. Ma question, elle est plus politique ici. Qu'est-ce qu'on pourrait changer pour faciliter l'accès aux personnes en situation de handicap dans le travail ?
Vous avez combien de temps ?
Non, mais au moins, est-ce que tu as des pistes à nous donner, Flore ?
En fait, déjà, il faut sensibiliser. Et nous, c'est ce qu'on fait avec les restos, c'est ce qu'on fait avec notre association. C'est de montrer que c'est possible et de montrer que l'inclusion de personnes en situation de handicap dans une entreprise, c'est pas une question de quota, en fait. C'est, faut arrêter de le voir comme quelque chose qui, une contrainte, comme qu'est-ce que ça, ah oui, mais ça va être trop difficile, ça va être compliqué, oh là là, va falloir s'adapter. Non, de faire changer le regard et de montrer tout ce que ça apporte, au contraire, à une entreprise, à une équipe, à une clientèle, à la société, quoi, tout simplement. Donc, déjà, il y a un changement de regard. Ça, il s'est déjà opéré, moi, je trouve, et ça continue.
Quand tu dis c'est déjà opéré, tu trouves qu'il s'est opéré dans la société en général ?
Ouais, okay. Déjà ces dernières années et je pense, nous on a deux restos, mais il y a plein d'autres restos qui sont ouverts. On a créé un collectif qui s'appelle les Brigades Extraordinaires, qui réunit aujourd'hui 17 restos inclusifs partout en France. Il y en a une vingtaine qui sont en cours de montage. Donc il y a et en fait le fait de mettre en lumière et de montrer un peu ces modèles à l'extrême, voilà, ça décloisonne. On a pas mal d'entreprises ordinaires hein, qui nous contactent en nous disant ah mais moi je commence à y réfléchir. Mais en fait à chaque fois les employeurs nous disent bah par contre on se sent seul, on sait pas vers qui se tourner, ouais. On a besoin d'accompagnement. En fait il y a pas de ou très peu de ponts qui sont faits entre les personnes en situation de handicap et les employeurs. Après il y a aussi la question de la formation qui est pas assez accessible, même si aujourd'hui il y a des établissements qui s'y penchent sérieusement, mais il y a un lien qui n'est pas là. Et nous, c'est une question qu'on se pose, est-ce que ici nos collaborateurs ils doivent ensuite aller travailler en milieu ordinaire? Alors évidemment, s'ils le veulent, on les accompagne. Mais en fait, la réalité, c'est que si demain ils veulent aller travailler dans un restaurant, ben il y a pas grand monde pour les accompagner, pour accompagner l'employeur, que ce soit sur la sensibilisation, la formation des équipes, toute la partie administrative aussi. Il y a des aides. J'en parlais avec un employeur l'autre jour qui a une personne en situation de handicap et qui me dit ah oui, je sais, j'ai vu, il y a des aides et tout. Ah non, mais laisse tomber, trop compliqué, je fais sans. Waouh, ben là il y a un problème. Et pour le coup, c'est moi qui le fais, ces demandes d'aide-là. Effectivement, c'est ultra chronophage. Et moi, j'ai la chance de ne pas en plus d'être de diriger l'établissement, d'y travailler au quotidien. Donc, je suis pas la tête dans le guidon tout le temps et je peux prendre le temps de le faire. Mais tous les employeurs qui sont sur le terrain, mais ils n'ont pas du tout le temps de faire ça. Donc, il y a plein de choses qui sont mises en place, hein, mais c'est pas encore très facilitant, quoi.
Ouais. Toi, Sarah, est-ce que tu as changé de regard en commençant à travailler ici?
J'ai pas changé de regard parce que j'en avais pas.
Ok.
Donc, j'avais pas du tout de.
T'as ouvert ton regard.
Je connaissais pas. Ouais. Ah oui, ça s'est complètement ouvert. Parce que ça sert à rien, de toute façon, d'avoir un a priori sur quelque chose qu'on connaît pas. On ne connaît pas, on peut pas. C'est pour ça que je trouve ça complètement. C'est absurde d'avoir peur de quelque chose qu'on connaît pas. Ça sert à quoi? Puisqu'on connaît pas. Donc on découvre. Donc non. Ouais, je me suis ouverte à ça et c'est génial.
Bon. Oui, politiquement, est-ce qu'il y a des mesures ou une mesure que tu pourrais promouvoir qui...
Mais politiquement, c'est ça. C'est ces restaurants-là. C'est ça qu'il faut faire, c'est parce que c'est du quotidien. Ça se passe avec les gens, on a pignon sur rue, on est constamment confronté à des gens, comme dans tous les restaurants, qui viennent déjeuner, dîner. C'est ça qu'il faut faire. C'est des grands projets, etc. Mais c'est pour ça que moi, je dis à chaque fois, c'est une vitrine. Et c'est bien qu'on soit présent et qu'on voit que ça fonctionne, parce que ça fonctionne très bien.
Mais ce qui est dingue de ce que j'entends, c'est que malgré toutes les mesures qui veulent essayer de favoriser ça dans la formation, dans l'aide, etc., en fait, c'est quand même plus compliqué aujourd'hui d'ouvrir un établissement comme ça.
Alors, nous, on est aussi, on pousse le truc à l'extrême. Hein, on a une majorité de salariés en situation de handicap. C'est pas la vraie inclusion qu'on fait, nous.
D'accord, ouais.
La vraie inclusion, c'est demain, dans n'importe quelle entreprise, qu'une personne en situation de handicap, si elle le veut et qu'elle le peut, puisse aller bosser. Et du coup, nos modèles sont vraiment poussés à l'extrême. Donc forcément, on est des restos qui... on a une masse salariale qui est deux fois plus importante qu'un resto classique. Donc,
Qu'il y a deux fois plus de monde.
Et oui, et puis parce que notre chiffre d'affaires, il est limité, parce qu'on renouvelle peu les tables pour qu'il n'y ait pas des trop grosses amplitudes horaires pour nos salariés. On ferme sur plusieurs périodes pendant l'année. Donc on a un modèle qui, l'objectif est d'être à l'équilibre, mais on ne va jamais dégager des bénéfices incroyables.
Mais tu arrives à t'y retrouver financièrement?
Alors, post-Covid, c'est un peu compliqué tout de même, hein, parce que ça, comme pour tout le monde, hein, ça a été une période qui a été hyper complexe. Et aujourd'hui, on est des restaurants ordinaires. Le Reflet Paris, c'est un restaurant ordinaire avec les mêmes charges que n'importe quelle entreprise ordinaire. Pour autant... Après, on pourrait se dire, hein, on développe le chiffre d'affaires. Allez, c'est bon, on ouvre. Là, on est fermé dimanche, lundi. Il y a que deux jours en coupure. On ouvre 7/7. Mais on perd un peu complètement l'essence et la philosophie du projet. Et je pense qu'on perd tout le monde. On perd toute l'équipe. Et c'est pas du tout l'objectif. Mais ces restos, c'est indispensable, je pense, pour mettre un coup de projecteur et puis pour expérimenter aussi et donner envie et inspirer. Mais politiquement, il pourrait y avoir un soutien de nos établissements, par exemple.
Là, tu n'as aucun soutien financier ?
On a des aides de la GFIP. Alors, à Paris, on est donc entreprise ordinaire. Hein. On a des aides de la GFIP comme n'importe quelle entreprise qui embauche une personne en situation de handicap. Donc, c'est une contribution au salaire des personnes en situation de handicap, qui est indispensable, mais qui finalement n'est pas suffisante pour atteindre un équilibre économique. Et à Paris, par contre, on a l'agrément entreprise adaptée, où là, les aides, c'est des aides au poste de l'État, donc sur les salaires des personnes en situation de handicap, qui sont quasiment deux fois plus importantes. Donc là, c'est plus conséquent.
Ok. Okay. C'est quoi ta proportion de personnes, enfin, c'est quoi la proportion de personnes handicapées dans ces restaurants?
En tout, on a 10 salariés par resto, dont 6 à Nantes et 7 à Paris qui sont en situation de handicap.
Ok. Pour ouvrir sur ces questions-là, là, on a parlé politiquement sur comment on peut faire pour améliorer notamment l'embauche des personnes en situation de handicap. Comment, du côté des personnes ordinaires, on peut les rendre plus bienveillantes à leur égard, indépendamment évidemment de ces restaurants qui aident énormément à ça?
Bah, moi, je pense en créant la rencontre, en donnant l'opportunité à chacun de se rencontrer, d'apprendre à se connaître. Et déjà, ça, c'est pas mal. Moi, c'est quand même hallucinant que... moi, j'ai des copains, quand on a ouvert le Reflet, ils m'ont dit « Mais c'est la première fois que je parle à une personne en situation de handicap mental. »
Ouais.
Donc forcément.
Et toi, en tant que proche de personnes ayant un handicap mental, est-ce que t'as souffert du fait que y avait peut-être encore moins de projections sur les proches qui peuvent quand même souffrir de cette situation?
Je pense que, pas dans toutes les familles, mais certainement au moment de l'adolescence, il y a forcément, c'est forcément un sujet. Enfin, je pense, alors je ne vais pas faire une généralité de toutes les familles et les proches.
Bien sûr.
Mais ouais, au moment de l'adolescence, forcément, il y a d'un côté le regard, les moqueries qui sont encore plus difficiles quand on est jeune, en train de se construire et tout ça. Le fait que l'attention soit évidemment et normalement plus portée sur le frère ou la sœur en situation de handicap. Oui, forcément, il y a une période où ce n'est pas évident. Mais justement, moi, ce que je trouve chouette, c'est que le jour où j'ai présenté mon projet de diplôme, dans l'école où j'étais, en fait, juste avant le jury, on a 2 jours de porte ouverte et on a 2000 personnes qui passent dans le week-end. Donc, ça nous permet de challenger un peu le projet. Et quand j'ai présenté du coup le diplôme, mon projet de diplôme, là où avant, j'avais 24 ans, j'avais évidemment en tête toute la partie adolescence où effectivement, on voit les regards, on voit plein de choses négatives, et le jour où j'ai présenté mon diplôme, en fait, c'est comme si ça s'était inversé et que j'avais vu toute l'autre partie de la population qui est clairement majoritaire, hein, qui est bienveillante et qui est prête justement à cette rencontre. Et depuis le début du projet, en fait, je suis restée dans cet esprit-là, et toutes les personnes qui ont rejoint le projet, toutes les personnes qu'on côtoie à tous les niveaux du Reflet ou de l'association, on se dit qu'il y a quand même vachement de gens qui sont hyper bien, super bienveillants et avec qui on partage des valeurs humaines. Et c'est hyper rassurant. Je dis souvent que quand justement je croise quelqu'un qui est pas dans le même état d'esprit du coup ça me surprend toujours. Je me dis ah oui c'est vrai, il y a pas que des gens bien. Donc ça montre que quand même on côtoie globalement grâce au projet du Reflet des gens qui sont extraordinaires.
Ouais.
Et c'est hyper rassurant sur l'espèce humaine.
Oui.
Et au niveau individuel, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire à notre échelle pour favoriser ce changement de regard?
Venir manger.
Oui. Venir manger parce qu'il y a tout ici. Il y a absolument tout. Ça regroupe tout ce qu'on vient de dire.
Et on n'a pas parlé de votre engagement écotable, évidemment. Je suis obligée un tout petit peu d'en parler. Mais tu disais, t'as voulu aussi que dans l'assiette, ça soit bon et que ça soit fait avec des bons produits. Ça a été une évidence dès le début?
Ah oui. Ah oui, oui. Au début, on nous disait, du coup, vous allez faire signer à 4 par un grand chef et tout. Et je disais, on va surtout laisser carte blanche à la personne qui prendra les rênes de la cuisine pour qu'elle s'y épanouisse et qu'elle y mette sa personnalité, en ayant toujours en fil conducteur de faire du frais, du fait maison, respecter les saisons, d'être dans le vrai, ouais, jusque dans l'assiette.
Ouais. Et toi,
parce que c'est un vrai resto. Hein.
Oui, parce que toi, Sarah, tu n'as pas seulement le rôle de chef, j'imagine que c'est aussi toi qui fais toutes les commandes, etc. Ou les personnes extraordinaires participent aussi à la prise de commande?
Bien sûr qu'ils participent.
Ok. Et aussi à la conception de la carte?
Au contraire.
Ok.
C'est aussi le but, c'est de les faire participer en tout. Et alors sur la carte, ça peut être les entrées ou les desserts. Après, ils peuvent donner des petites idées pour sur les plats, mais il faut que, comme je dis à chaque fois, hein, de toute façon, une fois que la base est bien installée, donc si les plats, par exemple, voilà, on sait où on va, on peut se permettre sur les entrées et les desserts, hop, d'accorder le choix Eurydice, par exemple, qui a déjà fait des petits desserts, Redouane qui a déjà fait des entrées. C'est le but, oui. En plus, ils ont plein d'idées et ils sont très demandeurs.
C'est quoi les projets pour l'avenir, Flore ?
Ben déjà, de pérenniser nos deux restos.
D'en ouvrir un troisième ?
Non.
Ok.
En fait, déjà, deux, c'est bien. Et de continuer à bien faire les choses dans nos deux restaurants et de pouvoir les faire rayonner. Je parlais tout à l'heure rapidement du collectif de restos inclusifs qu'on a créé avec notre association. L'idée, c'est de continuer à accompagner les porteurs de projets, de fédérer ces restos inclusifs, de partager les bonnes pratiques. Mais le but ultime, c'est pas d'avoir que des restos inclusifs comme les nôtres. Le but, c'est que dans n'importe quel resto ou n'importe quelle entreprise, peu importe le secteur d'activité, les personnes en situation de handicap puissent trouver leur place. Donc en fait, notre rôle, il va être de mettre en lumière ce qui se fait de bien, de montrer les bonnes pratiques, d'inspirer. Et de pouvoir accompagner n'importe quel type d'employeur à intégrer dans ses équipes une personne en situation de handicap, parce que ce sera ça la vraie inclusion.
Ok. Pour les personnes qui nous écoutent, est-ce que vous auriez un livre, un film, un documentaire à nous conseiller sur le sujet ? Sarah ?
Les Brigades Extraordinaires.
C'est un documentaire qu'on a pu voir à la télé sur Gulli en mars dernier, qui a été tourné, qui a été réalisé par Aurélia Bloch, qui a suivi quatre des collaborateurs du Reflet de Paris pendant 8 mois dans leur vie pro et leur vie perso. Et l'objectif de ce documentaire, un documentaire de 70 minutes, c'est de montrer ce qu'un job en milieu ordinaire peut apporter à une personne en situation de handicap. Et du coup, on découvre... Alors, pour le coup, il n'y a vraiment rien qui est joué. Il n'y a pas de filtre, il n'y a pas de faux-semblant. C'est vraiment le quotidien de ce qu'on vit, nous, avec les collaborateurs. Enfin, vous, au quotidien, sur le terrain. Et c'est génial parce qu'on découvre des personnalités, des talents. Et c'est top.
Merci beaucoup à toutes les deux.
Merci.
Merci beaucoup.
Merci d'avoir écouté le podcast sur le grill décotable. Pour nous soutenir, notez ce podcast 5 sur 5 sur votre plateforme d'écoute préférée et lâchez un commentaire. N'oubliez pas aussi d'aller manger dans nos restaurants vertueux et délicieux dans toute la France. Amis restaurateurs et restauratrices, découvrez notre plateforme de restauration durable impact.ecotable.fr qui vous permet de mesurer votre impact, trouver les bons fournisseurs et vous former sur toutes les questions d'éco-responsabilité. À bientôt.
Écotable. Écotable.